Bienvenue ce matin. Notre tendance en ce moment, c'est de dire « qu'est-ce qui fait chaud ?» Et périodiquement, au cours de l'année, on amène les ventilateurs. Et puis après, on va avoir juste dans quelques semaines, rassurez-vous, il fera trop frais, trop froid, on mettra les chauffages. Les dames garderont leurs manteaux. Et en général, on a tendance à rouspéter. Et moi, le premier. La France a gagné le championnat de foot du monde, le World Cup, la Coupe du Monde. Mais s'il y avait une compétition pour rouspéter, je crois qu'on serait pas mal placé non plus en France. Je vois des amis d'origine non française qui rigolent parce qu'ils savent que c'est la vérité. Rouspéter, se plaindre. Le mot rouspéter, il a déjà une force en lui-même. On dit que ça vient, si on en croit les étymologistes, ceux qui recherchent la racine des mots, ça vient de rouscaille, rouscailler, qui voulait dire discuter, mais aussi discuter dans un sens négatif, se disputer. Rouscailler et péter, exploser. Donc rouspéter, c'est pas bon. Ça mène pas à grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est que même en grec, le mot qui est utilisé pour traduire le mot de se plaindre, c'est le mot gougousmai. Gougousmai. J'aime bien saisir un peu le sens des mots. C'est une façon dont nous exprimons. Et malheureusement, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on rouspète. J'aime bien, vous connaissez, pour ceux qui sont réguliers ici, que j'aime bien parler de l'attitude-gratitude, de la gratitude-attitude. C'est quelque chose qui fait partie de la volonté de Dieu. Si vous regardez dans 1 Thessaloniciens, juste avant Timothée, on a, et après Colossiens, on a 1 Thessaloniciens. Et qu'est-ce que nous dit notre frère Paul à partir du verset 16? 1 Thessaloniciens 5, 16, pardon. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Pourquoi ? Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. La volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on soit reconnaissant en toutes circonstances. Que quand il y a des circonstances adverses ou positives, on prie, et aussi qu'on soit toujours joyeux. Même quand il fait 40 degrés, et quand on dit que ça ira mieux demain, mais ça va reprendre plus fort lundi et mardi. C'est intéressant aussi de remarquer dans Philippiens, toujours le même apôtre Paul, Galates, Éphésiens, Philippiens, il nous dit de. On peut lire les versets 12 à 16 de Philippiens 2, versets 14 à 16. Faites tout sans murmure ni contestation. C'est le mot gougosmaï. Faites tout sans gougosmaïer. Sans rouspéter, afin d'être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et là, il va nous dire que ne pas rouspéter, ne pas se plaindre à tout bout de champ, c'est tellement extraordinaire pour les hommes, que ça va être un témoignage de notre foi en Christ. Il nous dit en effet, après avoir dit « Soyez sans défaut, faites tout sans murmurer ni contestation, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour du Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. » Autrement dit, si nous faisons un petit effort sur notre vieille nature de rouspéteur professionnel champion du monde, on va briller comme des flambeaux. Ça met l'attitude gratitude en perspective. Des fois, il y en a qui disent « Moi, je n'ai pas le don d'évangélisation. » Certes, c'est un don. Certains prennent une joie particulière à partager les faits de l'Évangile, la réalité de l'Évangile, en priant pour que les gens soient convertis. Mais nous sommes tous appelés à faire un travail d'évangéliste. Et il ne s'agit pas seulement de pouvoir expliciter l'Évangile de façon claire et percutante. On voit ici qu'une des façons d'évangéliser, c'est d'arrêter de râler. Moi, parce que c'est vrai que si on regarde bien tout autour de nous, et malheureusement, quand on se regarde soi-même, on n'arrête pas de râler. Et l'idée d'être plein de gratitude, c'est, encore une fois, c'est une attitude dans le cœur qui change tout. Je vois quand la canicule a commencé, j'en pouvais plus, j'étais là à dire oh, « c'est pas possible, pourquoi je me retrouve encore à Nice au mois d'août ?» J'aurais dû essayer d'échanger avec un pasteur qui habite en Scandinavie, qui voudrait venir passer quelque temps à Nice. Mais non, je me retrouve. Et puis la clim dont on avait parlé l'an dernier, on n'en pouvait plus, on s'était dit on va acheter une clim. Et puis quelques jours plus tard, la clim n'était plus une grande urgence. Donc on se retrouve à penser à la clim quand tous les installateurs de clim et tous les magasins de clim sont dévalisés et complètement pris. Et puis, j'ai eu à méditer un peu sur l'attitude de gratitude. Et je me suis dit, il faut que je me reprenne. Et plutôt que de rouspéter à chaque fois que je regarde la température, de me dire, c'est l'été, il fait beau, le ciel brille, il n'y a pas de pluie. Essayons de voir les choses avec une attitude positive. Je me suis dit, ils disent que c'est bien d'aller dans un endroit réfrigéré ou rafraîchi. Un bon endroit, si vous avez du travail à faire, c'est la bibliothèque municipale près du Mamac. J'ai dit, je vais prendre un peu de travail avec moi, mon ordinateur, et je vais pouvoir aller travailler là-bas au frais, sans rouspéter contre la température. Parce que quand je rouspète contre la température, je rouspète contre Dieu. Et puis en arrivant là-bas, j'ai encore rouspété parce que les horaires d'août avaient changé. En août, ça, les horaires changent. Et c'est pas ouvert le matin, ça a ouvert qu'à partir de 13h, entre 13h et 16h. Donc je crois que c'est du mardi au vendredi, si vous avez besoin de vous réfrigérer un peu, allez à la bibliothèque municipale. J'ai pu en profiter parce que le MAMAC, le musée d'art moderne, était ouvert, et là aussi il fait frais dedans. Et si vous avez une carte passe des musées, qu'on obtient gratuitement à Nice, avec présentation d'une facture de téléphone, de gaz ou d'électricité, c'est gratuit. Donc je suis allé passer quelques moments au MAMAC. Et donc, j'ai fait un peu un changement dans mon esprit. Au lieu de rouspéter, parce que quand on rouspète, en général, on ne fait rien d'autre que ça. C'est de prendre des actions pour faire face aux problèmes. Alors je sais que parmi nous, il y a des personnes qui doivent travailler, qui ne peuvent pas travailler aux horaires voulus. Mais Le Seigneur est là, il est là pour nous aider, il nous protège du froid, il nous protège du chaud, il nous protège du... Et cette attitude, elle change tout. Et ce matin, j'écoutais, c'était sur BFM, souvent j'écoute pour avoir les nouvelles en continu, et il y avait un professeur d'économie qui disait qu'en fait, nous ne prenons pas conscience de toutes les choses qui nous sont données, toutes les choses qui nous sont offertes. Et cet homme disait que ce matin, vous vous êtes levé, vous avez allumé la lumière, peut-être, si vous êtes levé tôt, vous avez été prendre votre douche, et puis après, vous avez été prendre un café. Peut-être pas dans cet ordre, mais peu importe. Et il disait, on ne réalise pas tout ce qu'il y a derrière ces gestes quotidiens. Et cet homme, qui n'est pas apparemment un croyant, qui ne se présentait pas tel quel, disait, on n'est pas reconnaissant de tout ce qui nous permet de vivre. Et ça m'a frappé quelqu'un qui parle pas au nom de Dieu, fasse la même remarque que ce que Dieu nous dit, arrêtez de vous plaindre. Et il disait, derrière la douche que vous prenez, il y a un système d'alimentation en eau, avec des gens qui travaillent à longueur d'année. Il y a des plombiers qui réparent, qui installent des canalisations, qui font qu'en fait, en tournant le robinet, on peut recevoir de l'eau. Et il disait, peut-être que vous prenez du café un peu sophistiqué, avec un appareil spécial, etc. Mais il disait, même si vous prenez de la poudre de Nescafé, il dit, chaque seconde dans le monde, il y a 3000 tasses, 3000 cuillères, petites cuillères de café. Toutes les secondes, il y a 3000 petites cuillères de Nescafé qui vont dans de l'eau chaude. Il disait, derrière ce Nescafé, il y a des usines gigantesques de lyophilisation. Il y a des gens qui cultivent le café quelque part en Colombie ou en Arabie, au Yémen, ou peu importe. Il y a des gens qui voyagent pour trouver les meilleurs cafés. Il y a des gens qui ont développé des recherches pour savoir comment extraire le goût du café dans des petits grains, des usines de lyophilisation, et il dit, on n'est pas conscient de tout ça. Et il dit, il y a beaucoup de pays du monde, justement, de personnes qui n'ont pas accès à ces choses qu'on trouve tout à fait communes. Et encore une fois, l'attitude de gratitude, ça change la vie. Je n'ai pas eu le temps de voir, mais en faisant des recherches sur Internet, j'ai vu un médecin qui propose une série d'une dizaine de conférences sur ce que une attitude de gratitude change dans nos vies. Et encore une fois, ce n'est pas quelqu'un qui vient d'un point de vue chrétien, d'un point de vue spirituel. C'est un médecin qui a constaté que lorsque les gens sont reconnaissants, et on peut toujours trouver quelque chose pour être reconnaissant. Il fait 40 degrés, merci Seigneur, il ne fait pas 56 degrés comme à près de Lisbonne en ce moment, malheureusement pour nos amis du Portugal. Ou même s'il fait ces températures, on a des moyens, on a des connaissances, on sait qu'il faut boire, on sait qu'il faut essayer de mouiller ses vêtements si besoin est. On a la science, l'information qui nous permet de ne pas mourir comme des insectes. On va regarder un de mes psaumes favoris. En ce moment, on a dit qu'on faisait des études un peu ponctuelles. On va regarder le psaume 103. La semaine dernière, on avait vu le psaume 139. Le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent me connaît personnellement. Et il a des pensées pour moi, il a des bons projets pour moi. Aujourd'hui, on va voir ce psaume 103 qui nous est annoncé comme étant un psaume de David. Et une chose qui est remarquable lorsqu'on a une attitude de gratitude, c'est qu'on n'est pas mené ou conduit à demander. Vous avez peut-être des amis, des connaissances, peut-être même des membres de la famille que vous ne voyez que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Et vous avez souvent ce petit sentiment de dire, bon, ils sont bien gentils, mais si ce n'était pas parce qu'il y avait un besoin, jamais ils me contacteraient. Et Dieu, c'est pareil. Il nous aime, il nous bénit, mais je crois qu'il y a quelque chose de particulier qu'il apprécie, c'est lorsqu'on vient simplement pour dire merci. Et c'est le cas dans ce psaume 103, il y a plusieurs psaumes qui se suivent, où David, ou le psalmiste inspiré par l'Esprit Saint, ne fait que remercier Dieu. On va lire ce très beau psaume qui était comparé par Spurgeon à une montagne dans les Alpes qui serait au-dessus de tout et qui brillerait dans le soleil levant. Lisons ensemble. Psaume 103, je lis dans la version second 21. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse. C'est au fait aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Amen. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Est-ce qu'il vous arrive de vous parler à vous-même? Avant, dans la rue, quand on entendait quelqu'un parler tout seul, On faisait un petit détour parce qu'on disait c'est peut-être quelqu'un qui est un peu dérangé. Maintenant, on dit peut-être qu'il a une oreillette et qu'il parle à quelqu'un de quelque chose de grave. Il y a toujours des gens, malheureusement, qui sont un peu dérangés et qui parlent fort, en criant, en invectivant on ne sait qui, on ne sait quoi. Mais il y a quelque chose de bon à se parler à soi-même. Ce qui semble être un monologue, ça peut être en fait un dialogue avec Dieu ou avec notre âme, notre dimension spirituelle. Le psalmiste disait dans le psaume 42, verset 6 ou 43, 5, parlant à son âme, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Il y a des fois, on ne sait pas pourquoi on a tel ou tel sentiment. Et là, David s'invective lui-même en disant « Bénis l'Éternel, ô mon âme !» Alors, il ne s'agit pas de le bénir comme quelqu'un de supérieur bénit quelqu'un d'inférieur en lui donnant des bonnes choses, en lui faisant des dons. Le sens, le mot de bénir, c'est le mot « Barak ». Donc vous pouvez bénir Obama. Barack Obama. Barack. Et c'est le mot pour louer, je plaisante bien sûr. C'est le mot pour louer, pour bénir. Et c'est aussi à l'origine le mot de plier le genou, se mettre à genoux devant quelque chose. C'est bénir en attribuant, au contraire d'un patron qui bénit un employé en lui en faisant une augmentation, c'est de présenter notre reconnaissance à Dieu comme un cadeau. Il veut être honnête avec Dieu. Bénis Dieu, ô mon âme. L'Esprit Saint l'a inspiré, ses paroles ont été enregistrées pour notre bénéfice. Mais là, ce n'est pas d'une prière publique que David parle. Au contraire, il veut que son adoration, sa reconnaissance soit réelle. Il n'est pas hypocrite. Le prophète Ésaïe parlait de ceux qui l'honorent avec leurs lèvres, mais dont le cœur est loin de lui. Et ça peut être notre cas. On peut venir à l'église par tradition, par routine, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais si c'est la seule motivation, si on ne recherche pas vraiment une réalité de relation avec Dieu, alors on peut honorer Dieu avec nos lèvres, mais être loin de lui dans nos cœurs. Matthieu 15, 8 reprend cette expression d'Ésaïe 29, 13. David veut que son amour, sa reconnaissance soit réelle. Et je crois que nous tous, quand nous prenons le temps de faire silence dans nos cœurs et que nous recherchons Dieu, personnellement, on peut dire « Bénis l'Éternel, ô mon âme ». Il ajoute même que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Ce matin, dans la louange, Tonio a chanté plusieurs chants basés sur cette idée de bénir l'Éternel, de louer son saint nom, sans chercher à obtenir quelque chose en retour. Il dit que tout ce qui est en moi, c'est-à-dire tout mon être, il veut faire un effort. Et ce qui veut dire qu'on peut, faire des efforts pour être reconnaissant, pour chanter notre reconnaissance à Dieu, pour le bénir, pour mettre le genou et lui dire « Merci pour tout ce que tu me donnes, fais de moi ce que tu veux, aide-moi à t'obéir. » Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et là, c'est par opposition à ce qui est extérieur, c'est tout l'être intérieur dont on a vu dans il y a quelques semaines dans 2 Corinthiens 4, 16 et 18 que lorsque notre être extérieur se dégrade, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour et devient de plus en plus fort. Bénis l'Éternel. C'est un procédé de poésie. Les psaumes sont de la poésie hébraïque, écrites en hébreu. Souvent, c'est écrit avec chaque verset correspond à une lettre de l'alphabet hébreu pour aider à la mémorisation, pour aider à s'en souvenir. Et il y a différents processus de poésie. La poésie française est typiquement la poésie européenne. C'est des allitérations, c'est des rimes, c'est des cadences. La poésie hébraïque, elle s'attache plus aux idées. On peut répéter une idée, c'est ce qui est fait ici. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. On verra qu'à la fin, versets 20, 21, 22, bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Il termine par la même expression, bénis l'Éternel, ô mon âme. Il veut remercier, mettre le genou devant Dieu en pensant à tous les bienfaits qu'il lui donne. Bénis verset 2, bénis l'Éternel, mon âme. Un autre procédé, pour revenir au procédé de poésie en hébreu, ça peut être le contraste. On verra qu'il y a quelques contrastes. Lorsqu'il contraste l'éternité de Dieu et notre transience, notre passage si rapide, la fugacité de nos vies. Ça aussi, c'est une façon de faire passer des pensées, faire exprimer son cœur, ses sentiments. Il dit au verset 2, il répète, « Bénis l'Éternel, mon âme. » Et là, il dit, « Et n'oublie aucun de ses bienfaits. » L'attitude de gratitude. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublions aucun des bienfaits de Dieu à notre égard. Même lorsqu'il fait chaud. Même lorsqu'il fait très chaud. Même lorsque nous sommes dans la maladie. Même lorsque nous sommes dans le deuil. C'est pas facile. On a tendance à se fixer sur la chose négative et à oublier les choses positives. Et ça nous rappelle l'apôtre Paul qui nous disait dans Philippiens, « J'ai appris en toutes circonstances à être reconnaissance, à être reconnaissant. » Ce n'est pas quelque chose de naturel. Encore une fois, si on est vraiment touché par l'Esprit de Dieu, si notre vie reflète la vie de Jésus-Christ, si nous parlons de Lui et que nous cessons de nous plaindre, nous sommes une exception dans la masse qui nous entoure. Et vous remarquerez que nous sommes une exception attrayante. Qu'on en arrête de faire comme tout le monde et de se plaindre de la chaleur et de remercier Dieu qui a la mer qui n'est pas loin, qui nous permet de nous rafraîchir ou de pouvoir nager sans avoir à porter des tas de vêtements. Je me souviens quand j'étais gosse, je détestais aller skier. J'aimais bien, une fois que j'étais sur la piste, essayer de prendre un rythme et de descendre dans la splendeur de la neige et du soleil, si c'était le cas. Mais je me disais, lorsque j'enfilais mes vêtements pour le ski, ah, j'aime bien aller à la plage en plein été. Il suffit d'un maillot de bain et c'est fini. Une serviette, on est prêt. Encore une fois, si on change de paradigme, si on change notre attitude, qu'on n'oublie aucun de ses bienfaits, on va pouvoir sincèrement, sans hypocrisie, bénir Dieu, bénir l'Éternel. Et sans attendre les recherches de la médecine moderne, sans attendre, on sait que c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose qui nous fait du bien. Au lieu de faire du « on dit merci ». Vous avez sans doute entendu, je ne sais pas, le nombre de muscles qui doivent être utilisés pour faire la gueule, pardonnez-moi l'expression, est beaucoup supérieur à ceux qui nous permettent de sourire. Il y a plus de travail à rouspéter, même au niveau musculaire de facial, que à sourire. N'oublie aucun de ses bienfaits et il s'empresse d'en faire la liste non exhaustive. Et on va voir cette méditation, et c'est une méditation à laquelle je m'invite et je vous invite tous, c'est de remercier Dieu en pensant à tout ce qu'il nous donne. Je me souviens lorsque nos enfants étaient très jeunes et que Sébastien, mon plus jeune fils, commençait à dire merci à Dieu avant le repas. On avait rapidement appris qu'il fallait peut-être mieux demander à Tonio, qui était plus âgé, ou prier, parce que lui, il commençait à remercier Dieu pour tout ce qu'il voyait. Merci pour le pot de moutarde. Merci pour la carafe d'eau. Merci pour les frites. Merci pour la nappe. Merci pour les chaises. Et il fallait l'interrompre. Et c'est vrai que si on y pense nous-mêmes, il faudrait nous interrompre. Dieu nous dit « Stop, ça suffit !» Mais non, il nous dit jamais, parce qu'il sait que ce n'est pas notre tendance et que c'est si bon pour nous. Et donc, il va faire cette méditation sur tous les bienfaits de Dieu. Et à la fin, il va dire « Bénis l'Éternel, mon âme, encore plus fort !» Fort de toutes ces raisons de bénir l'Éternel, il va dire « Alléluia !» Bénis l'Éternel, ô mon âme. Tu as encore plus de raisons à la fin de ce psaume qu'au début. Et pourtant, dès le début, tu savais que c'était la chose à faire. Bénis l'Éternel, mon âme. Il cite plusieurs bienfaits. Et encore une fois, ce n'est pas exhaustif. D'abord, le pardon. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Le pardon. Il va reprendre un peu plus loin. Verset 8. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il ne se conteste pas sans fin. Ça veut dire qu'il ne se dispute pas avec nous sans arrêt. Il ne garde pas éternellement sa colère. On a souvent l'idée que dans l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu de colère et que dans le Nouveau Testament, c'est un Dieu de pardon et d'amour. Mais si vous lisez l'Apocalypse, chapitre 14 par exemple, lorsque Dieu déverse sa colère sur la terre, et là vous voyez combien, verset 8, dans l'Ancien Testament, il est rempli de compassion, il est lent à la colère, riche en bonté, il fait grâce, et il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Il pardonne toutes nos fautes. Il pardonne toutes mes fautes. Rappelez-vous qu'il parle à son âme. Les vrais péchés, c'est les fautes dans nos cœurs, qui malheureusement se manifestent par des activités, des actions qui font du mal autour de nous. J'aime bien, c'est un prédicateur anglais du 19e siècle, Alexander McLaren, qui disait que toute mauvaise action a trois aspects. Il y a un aspect contre moi-même, c'est ce qu'on appelle un vice. Je suis alcoolique, je me fais du mal, je détruis mon foie, j'ai une cirrhose et je vais mourir encore plus vite. C'est un vice. Et puis, il y a un aspect vis-à-vis des autres qui m'entourent. Et ça, c'est un délit. Si je suis alcoolique, si je conduis ma voiture et que je cause un accident, ou même sans causer d'accident, si j'ai de l'alcool dans le sang à un taux élevé, ou décidé par les législateurs, je commets un délit, un crime. Et en fait, l'aspect le plus grave, c'est l'aspect de cette mauvaise action vis-à-vis de Dieu. C'est là qu'il y a vraiment péché. Le péché, c'est contre Dieu. Le vice, c'est contre moi-même. Le crime, c'est contre ceux qui m'entourent. Mais le péché, c'est contre Dieu lui-même. C'est pour ça que j'étais toujours un peu surpris lorsqu'on considère le grand péché de David avec Bathsheba ou Bethsabée. Il avait non seulement commis l'adultère, il n'était pas là où il aurait dû être, au travail, auprès de ses hommes et de ses troupes. Il se reposait alors que ses hommes étaient en train de mourir pour lui et pour le royaume d'Israël. Il a commis l'adultère, il a dissimulé cet adultère en allant jusqu'au meurtre du mari de Bathsheba, Uzaïa, en le faisant aller, en lui demandant de porter une lettre qui contenait son arrêt de mort, parce que dans cette lettre, il était demandé au général en chef de le mettre au plus près du danger. Et donc, ce crime terrible qui en même temps fait que cet homme qui était selon le cœur de Dieu, quel beau titre, quelque part je peux m'identifier à lui dans mon péché, dans mes péchés, mais cet homme il a dit « Contre toi et toi seulement j'ai péché ». Et les premières fois que je lisais ça, je dis « Il exagère ». Il a tué Uzaïa, il a tué, je ne sais plus comment on dit en français, Uri, oui. Il a commis l'adultère, il a fait un enfant à une femme qui était mariée, il a caché, il a été l'hypocrite des hypocrites, jusqu'au jour où le prophète Nathan l'a repris, et là, lorsqu'il a admis sa faute, aussitôt il a été pardonné. Les conséquences n'ont pas disparu, les conséquences de nos péchés ne sont pas effacées. On ne peut pas redonner la vie à quelqu'un qui aurait été tué par notre péché. Mais dans la même foulée que Dieu lui propose plutôt que David reconnaît son péché, il est pardonné. Et c'est ce péché qui lui fait dire « c'est lui qui pardonne toutes tes fautes ». Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Nos fautes méritent la mort. C'est justement là que Jésus-Christ est la solution à notre péché. C'est lui qui prend la mort que je mérite. Ésaïe 53, ce passage si terrible et si profond et si merveilleux. 53:6, on pourrait lire tout le chapitre, mais pour des raisons de temps, lisons à partir du verset 6 de chapitre 53. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte, sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes, c'est lui qui portera leurs fautes. Il ne nous traite pas selon la gravité de nos fautes, parce qu'il les a placées sur Jésus. Et puis il ajoute, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Dans la tradition hébraïque, il y avait les cieux, ceux qu'on voyait dans la journée, il y avait les cieux nocturnes qui étaient plus loin, parce qu'on voyait les étoiles, les galaxies, la Voie lactée, etc. Et puis il y avait un autre domaine qui était encore le domaine où habitait Dieu. Et le ciel, il est tellement au-dessus de nous, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. On a regardé l'éclipse de lune pour certains d'entre nous il y a une semaine à peu près. Et c'était assez couvert dans la région, il y avait de la brume. Mais lorsqu'on voit un ciel d'été, les étoiles qui brillent, on sait qu'elles sont à leur lumière, mais des années à venir nous atteindre. Des années-lumière, des milliers d'années-lumière. On voit la planète telle qu'elle est, ou l'étoile telle qu'elle était il y a des milliers d'années. Ça nous dépasse. C'est déjà haut tout ça. Sa bonté est encore plus grande. Je parlais de l'océan, j'aime bien quand je suis en train de nager, de me dire que je suis porté par l'amour de Dieu et que je peux boire autant de cet amour que je peux, je ne vais pas le mettre à mal. Il en restera toujours pour tout le monde et pour l'éternité. C'est lui qui pardonne nos fautes, toutes nos fautes. Il guérit toutes nos maladies. Alors nous avons bien sûr la réplique dans nos cœurs, mais il y a des gens qui ne guérissent pas. On a eu la douleur d'apprendre le décès de Boël Jubran, pour ceux qui la connaissaient. Boël et Sam Jubran étaient les pasteurs à l'église de Baptiste de la rue Vernier. Elle a lutté contre un cancer pendant 5 ans. Elle vient de terminer sa course et d'être guérie, finalement. Il guérit toutes nos maladies. Il délivre notre vie de la tombe ou de Sheol ou de la terre, du fond de la terre. Il nous couronne de bonté et de compassion. Il rassasie de bien notre vieillesse, avec les petits-enfants en particulier. Il nous fait rajeunir comme l'aigle. Souvenez de cette belle image, cette belle promesse d'Ésaïe, Ésaïe 40, 30. Il donne, Ésaïe 40, 29, il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Si nous dépendons de Dieu, si nous lui offrons notre faiblesse, il nous donne des forces qui nous donnent l'impression qu'on a rajeuni comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il ne laisse pas les choses injustes impunies, il fait droit à tous les opprimés, tous ceux qui sont persécutés, ceux qui sont maltraités, ceux qui sont négligés, ceux qui sont méprisés. Au bout du compte, il leur fait droit, c'est eux qui auront raison. Il fait connaître ses voies à Moïse, il révèle sa volonté. Il a donné des instructions à Moïse, il a confié la Torah à Moïse. Il fait connaître ses hauts faits, ses miracles aux enfants d'Israël. Ça, ce renouvellement. Il y a le pardon, il y a la guérison, il y a le rachat, il y a l'amour. Il nous fait grâce. Encore une fois, c'est la faveur que nous ne méritons pas, il nous l'offre. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Cette expression qui apparaît dans Exode 34, 6 et qui est reprise dans beaucoup de passages de l'Ancien Testament. J'ai un ami pasteur qui aime bien lire cette phrase en disant « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. » Il est lent à la colère et riche en bonté. Moi, j'aurais tendance à être rapide à la colère et radin en bonté. Pour ceux qui me connaissaient, vous pouvez... C'est pas la peine d'opiner du chef. Mais Dieu nous bénit par ce bienfait de sa grande grâce, de sa patience. Et s'il doit exprimer sa colère, il va le faire, mais après cela, il y aura le pardon. Autant, on reprend un peu plus loin, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Le pardon des péchés, décrit de façon géographique. Il aurait pu dire, autant le Nord est éloigné du Sud, autant il écarte de nous nos péchés. Le seul problème, c'est que la Terre tournant sur son axe, si nous allons vers le nord, que nous avons atteint le pôle nord, nous allons redescendre de l'autre côté vers le pôle sud. Et le pôle nord, le nord est éloigné du sud seulement par 20 000 kilomètres. Alors on pourrait se dire, pendant 20 000 kilomètres, on va être tranquille, mais il va nous faire revenir à notre péché. Alors que si vous allez vers l'Est, vous pourrez aller vers l'Est indéfiniment. Si vous allez vers l'Ouest, vous pourrez aller vers l'Ouest indéfiniment. Il n'y a pas un endroit où l'Est et l'Ouest se rencontrent. Et l'Esprit-Saint savait bien la géographie de notre planète, c'est pour ça qu'il fait utiliser par David cette comparaison. Et ce pardon des péchés, nous l'avons évoqué, c'est sans doute le plus grand bienfait que Dieu nous donne. Il nous donne la vie, nous laisse la liberté, nous péchons, mais il pardonne nos péchés. Il y a de très belles illustrations dans toute la Bible pour nous parler de ce pardon. Michée 7,19 disait que Dieu jette au fond de la mer tous nos péchés. Et c'était avant l'invention des scaphandres, des sous-marins. Quand c'était jeté au fond de la mer, c'était pour ne plus jamais être retrouvé. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Psaume 103, 12. Il nous dit, si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, qui pourrait subsister ? Dans le psaume 130, il oublie. Jérémie nous dit, ou dans Jérémie, Dieu dit, « Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'est difficile à croire quelque part. Et quelque part, c'est bien que ce soit un peu difficile à croire parce qu'il y a la tendance à dire, « Bon, ben, puisque Dieu pardonne tout, alors je peux continuer de pécher, je peux... » faire manifester la gloire de Dieu en montrant comment Dieu pardonne un pécheur tel que moi qui arrête jamais de pécher. Mais ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Dieu nous pardonne, mais il nous dit « Je te pardonne, va et ne pêche plus. » Comme il le disait à la femme prise en flagrant délit d'adultère, il l'a pardonné, mais il lui demandait de ne plus pécher. Il nous donne des raisons de bénir, d'honorer Dieu. Et puis là, à partir du... Il parle, verset 13, il va nous donner des comparaisons. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. » Je sais, que dans tout groupe d'une certaine taille, il y a toujours des gens qui ont une mauvaise expérience de leur enfance avec un père qui n'était pas digne d'être aimé ou respecter est souvent l'idée que Dieu est un père pour les hommes, pour tous les hommes, est quelque chose de difficile à recevoir. Mais là encore, c'est pas parce qu'il y a des pères qui ne sont pas de bons pères que nous ne devons pas faire confiance à Dieu qui est un bon père. Jésus en était conscient, qu'il disait « Vous qui n'êtes pas des pères parfaits, vous n'allez quand même pas donner des galets lorsque vos enfants vous demandent des brioches. » J'ai acheté une casquette aux États-Unis en solde. C'était après la fête des pères. Et dessus, il y a marqué « Le meilleur papa qui soit » en anglais. « The best dad ever ». Et j'étais un peu gêné de l'acheter parce que j'ai dit mes deux fils vont me tomber dessus. Puis je me suis dit, si jamais il y en a un qui ose pas, je vais leur donner, maintenant qu'ils sont papa eux aussi, je vais leur demander s'ils veulent prendre la casquette. Et à ma grande surprise, ils n'ont pas fait de réflexion, même avant que je leur propose ce marché. Mais c'est vrai que nous sommes des pères imparfaits. Dieu est un Père parfait. Et même en tant qu'imparfait, on a des sentiments pour nos enfants. On veut généralement le meilleur pour eux. Et encore une fois, il y a des exceptions. Il y a des hommes qui se comportent de façon horrible en tant que papa avec leurs enfants. Et c'est pour leur plus grand chagrin ultime. Mais l'Éternel n'hésite pas à se comparer à un père plein de compassion qui aime ceux qui le craignent, qui le respectent. Et en fait, il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous ne sommes que poussière. C'est intéressant que lorsque l'on considère les éléments chimiques qui composent un corps humain, une fois qu'on a enlevé 90% de l'eau qui compose notre corps, qu'est-ce qu'il reste? Il reste du calcium, les os, et puis en très petite quantité des protéines, des éléments. Mais lorsqu'on regarde les éléments qui constituent, qu'on a accumulés par notre vie et qui sont dans notre enveloppe charnelle, à l'époque, j'avais fait un calcul, pour moins de 5 €, on pouvait acheter ces matériaux. Mais bien sûr, on est plus que simplement des matériaux. Mais nous sommes à la base, nous sommes poussière. Ce qui nous donne de la valeur, c'est le souffle de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. La vie, c'est... Quel mystère, la vie ? On se demande à quoi va ressembler la mort. Le passage dans cette autre phase. Est-ce que ça vous arrive de vous demander comment ça va être? Des fois, on a un malaise, un accident, on se dit « Waouh, j'étais pas loin, qu'est-ce que ce serait ?» Et j'ai pas lu encore, mais apparemment, il y a un article dans l'Express de la semaine dernière ou de cette semaine qui fait état de recherches jusqu'au bout du bout, le plus loin possible, savoir... Parce que personne n'en est revenu à part un. Et quelques exceptions de la Bible que Jésus avait ressuscité, comme Lazare. Mais on aimerait bien savoir, on se demande. Alors il y a ces récits d'expériences après la mort. Souvent on pense que c'est inspiré, pas par Dieu, mais par d'autres esprits. Ces expériences où on a l'impression que pendant notre opération, on s'élève jusqu'au plafond de la salle de chirurgie et qu'on regarde les choses et qu'on prend une certaine distance. Ou alors il y a ce grand tunnel, cette grande joie, cette grande paix. Souvent, j'ai lu que lorsqu'on recherche davantage les choses et qu'on parle avec ces personnes, en fait, elles ont vécu des choses horribles, mais qu'elles ne veulent pas les admettre. Peu importe. Un jour, on saura. Mais Dieu sait que nous ne sommes que poussière. Et là, verset 15, il donne des contrastes. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Et puis un vent souffle sur elle, elle disparaît. Et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Notre existence est si courte, si fugace. J'arrive bientôt à 70 ans et j'ai des souvenirs de lorsque j'avais l'âge de 10 ans, c'était hier. C'était pas il y a si longtemps. Et plus on prend de l'âge et plus ça va vite. Les années s'enchaînent. On est déjà à la période de la canicule. Puis bientôt, ça sera Noël. Et puis, ça sera Pâques. Et... on a l'impression qu'on est une pierre dans une fronde. Et un jour, on va être lâché. Ces jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Ah, c'est joli, une fleur des champs. Ah, j'étais beau quand j'étais jeune. J'avais des cheveux, des muscles, pas de ventre, plein d'énergie. Comme la fleur des champs, pas la fleur du jardinier. La fleur du jardinier, elle est un peu protégée, elle est soignée. S'il fait trop froid, il la couvre. Mais la fleur des champs, hein, dès qu'il fait très chaud, non, elle fane. Au point que la fleur qu'on avait vue, on la retrouve même plus. La place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Ça, c'est un bon conseil pour les randonneurs. Et ceux qui font des pique-niques dans la nature, soyez sûrs de rien ne montre que vous êtes passé par là. Mais ça, c'est notre sort, notre vie. On a cette aspiration à composer, à être créé, à être connu. Parce qu'on sent qu'il y a un vent, le vent de la vie, de l'histoire, du passage du temps qui fait qu'on n'est rien. On n'est qu'une graine de poussière. À côté de ça, la bonté de l'Éternel, elle dure d'éternité en éternité. Le mot, c'est le point de fuite. Lorsque vous dessinez, vous essayez d'avoir des perspectives, vous avez une maison avec des lignes qui sont un peu obliques et qui se rejoignent très loin à gauche ou très loin à droite. C'est comme ça qu'on recrée un peu l'impression de perspective. Mais le point de fuite, on sait que les parallèles, elles se rencontrent à l'infini. Et donc, l'idée, c'est qu'on essaye de penser le plus loin possible dans le passé. Et puis là, quand on est arrivé là, on peut refaire la même opération, sans arrêt, sans arrêt. Et dans le futur, c'est la même chose. J'ai un moment où j'ai commencé mon existence. Peut-être que je l'ai existé toujours pour le Seigneur, puisqu'il avait déjà des projets pour moi, on en a parlé. Et j'ai une éternité qui m'attend. Mais le Dieu, l'Éternel, porte bien son nom. C'est la traduction de celui qui est sans cause, Yahweh, Jéhovah. Il existe sans autre cause que d'exister. Il est permanent. Et cette bonté qu'il a, elle l'accompagne. Et sa justice, elle est pour ceux qui le craignent, elle demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Il nous parle de conditions. On sait que lorsque l'on reçoit Jésus-Christ, il n'y a plus de conditions. Parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui a porté nos péchés. Mais il veut nous transformer. Et le fait que notre vie change, que nous nous comportons davantage comme Jésus-Christ, est la preuve que nous avons vraiment été sauvés. Il faut garder son alliance, se souvenir de ses commandements pour les mettre en pratique. Encore une fois, ce n'est pas le fait de garder des commandements et d'obéir à sa parole qui va nous sauver. Mais la réalité, c'est que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, comme dans la Nouvelle Alliance, si nous continuons à pécher, il y a un problème. L'Éternel, verset 19, on va terminer, « L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. » Encore une fois, il est infiniment plus puissant, plus grand que notre esprit ne peut commencer à balbutier, à l'imaginer. Est-ce que j'essaye des fois de mettre ça dans ma petite caboche, dans ma petite cervelle? Ou est-ce que je rouspète parce qu'il fait trop chaud? Ou est-ce que je pense qu'à ma petite personne? La louange, on a vu qu'elle était personnelle. Après, elle devient pour le peuple de Dieu. Et puis, elle devient universelle. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Les créatures de Dieu, les anges qui sont puissants et forts, qui exécutent ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, c'est les armées des anges. Dans l'Apocalypse, on voit qu'il y a des 10 000 fois 10 000 anges qui peuvent être appelés, qui vont venir, qui vont chanter la louange de l'Éternel, qui est ses serviteurs, qui fait sa volonté. Toute la création, toutes les œuvres de Dieu doivent le bénir dans tous les lieux où il domine. Et où est-ce qu'il domine? Verset 19, il domine sur tout l'univers. Et le psalmiste David, il se perd dans cette louange. Il a médité, il n'a rien demandé à Dieu. Il lui a simplement dit merci. Il l'a glorifié parce qu'il est un Dieu incomparable. Bénis l'Éternel, mon âme. Il termine avec ça. Il a encore plus de raisons. Et là, on n'a pas le temps de voir, mais il va continuer dans le psaume 104. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénissons l'Éternel. Amen. Seigneur, merci pour cette méditation de David sur ta grandeur, sur ma petitesse, sur mon péché, sur mes péchés, sur sa perfection. Merci Seigneur que si nous pouvons penser, nous avons des raisons de te remercier. Aide-nous Seigneur à avoir cette attitude de gratitude. Aide-nous à essayer de compter tes bienfaits. Tes pensées pour nous sont plus nombreuses que les galets de la plage de Nice, plus nombreuses que les grains de sable sur toutes les plages du monde, que toutes les étoiles. Seigneur, sois glorifié dans mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à te louer avec tout ce qui est en moi, Seigneur. Pardonne si, par moments, je t'adore avec hypocrisie, Seigneur, pas complètement. Si je te remercie pour certaines choses, mais que je me plains d'autres choses, et que j'essaye de trouver la satisfaction, la plénitude en dehors de toi. Seigneur, aide-nous à vraiment te bénir. Amen.